Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints à la station Ozone pour accueillir Marie de Henzel. Bonjour Marie de Henzel.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien.
Je le vois. Je vous remercie beaucoup d'être présente. Donc nous allons parler de votre dernier ouvrage, La mort sereine, dont le sous-titre est La dignité d'une fin consentie. Donc vous allez nous parler d'une façon de mourir qui est un peu méconnue. Même si elle est très ancienne, et voilà, vous allez nous livrer un peu vos expériences et nous raconter ces cas, et en même temps essayer d'en tirer des leçons dans le contexte actuel qui est marqué par la discussion qui a déjà duré un certain temps sur les nouvelles lois françaises à la fois sur la fin de vie, sur l'aide à mourir et aussi sur les soins palliatifs. Et donc, d'ailleurs, nous sommes dans l'actualité puisque le Sénat doit recommencer dans quelques jours à discuter sur une deuxième lecture. Voilà, il y a une divergence entre l'Assemblée et le Sénat sur ces textes, non pas sur le texte sur les soins palliatifs qui lui a fait une certaine unanimité, mais l'autre qui est plus clivant, on va dire, sur donc l'aide, ce qu'on peut appeler le suicide assisté, l'euthanasie, l'aide à mourir. Voilà, vous me direz les termes que vous employez. Voilà, donc Marie de Henzel, alors on vous présente encore, même si beaucoup vous connaissent déjà. Vous êtes donc psychologue, vous êtes essayiste, vous avez à votre actif une très très longue série d'ouvrages. En 1995, vous aviez publié La mort intime, qui a été un grand succès de librairie, qui a été traduit à l'étranger dans de très nombreuses langues. Vous avez été recruté entre guillemets par des maisons de retraite, qui vous ont demandé de venir intervenir auprès des pensionnaires, auprès des soignants aussi, auprès des familles, pour donc des conférences où vous livrez donc vos réflexions et vos expériences sur la mort, sur la fin, ces moments toujours poignants pour les proches, pour évidemment, et puis les choix qui sont faits par les mourants, de la façon dont ils veulent quitter ce monde. Vous avez évidemment été très médiatisé lors de la mort du président François Mitterrand, dont vous aviez accompagné les derniers moments en 1996. Et je rappelle donc que votre credo à vous, Marie de Henzel, c'est celui de la promotion des morts douces. Vous ne promeuvez pas l'euthanasie, la mort, le suicide assisté, pas du tout. Vous êtes beaucoup plus donc ouverte à d'autres alternatives, à d'autres solutions. Le livre que vous publiez aujourd'hui, donc La mort sereine, est une pierre apportée à ces alternatives, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous avez nous parlé de deux choses, de ce que vous appelez la mort à l'indienne et de ce que vous appelez la mort à l'ancienne. Alors, il y a évidemment deux choses un petit peu différentes. Comment vous est venu le projet de ce petit livre, Marie de Henzel ?
Alors, j'interviens depuis une bonne quinzaine d'années dans des résidences-services. Ce ne sont pas des maisons de retraite, c'est pas médicalisé. Ce sont des résidences dans lesquelles il y a des personnes de 80 à 100 ans qui sont autonomes, et j'ai mis en place dans ces résidences ce que j'appelle un parcours, l'aventure de vieillir. Et dans ce parcours, il y a toujours un atelier autour de la mort. Et j'ai beaucoup écouté les peurs, les interrogations, les désirs des personnes qui sont autonomes, qui sont âgées. Je les ai beaucoup écoutées, et j'ai aussi raconter dans ces parcours l'expérience que j'avais eue de l'accompagnement de ma belle-mère, qui, assez jeune quand même, 84 ans, avait téléphoné à son fils, mon mari, pour lui dire que voilà, elle rentrait du marché de Saint-Tropez. Elle vivait dans un mobil-home dans un camping. Et elle revenait, elle s'était rendu compte qu'elle n'avait aucune envie de manger les fromages de chèvre qu'elle venait d'acheter.
Elle voulait pas déballer ses courses.
Hein. Elle s'est rendu compte, en fait, que voilà, elle n'avait plus faim. Elle avait et elle lui a dit « Je vais me coucher et attendre que la mort vienne me chercher. » Alors, et elle disait « Je meurs à l'indienne. » C'est une femme assez originale, une forte personnalité, qui se rendait compte depuis un certain temps qu'elle commençait un peu à perdre la mémoire, qu'elle commençait... Et elle a dit « Je ne veux pas terminer ma vie dans un hôpital avec des perfusions partout, être... Je veux mourir comme les Jaïnes en Inde. » C'est une région dans laquelle les vieux et les vieilles meurent comme ça. Ils arrêtent de s'alimenter et de boire et ils ne souffrent pas. Alors, mon mari est descendu pour vérifier d'abord qu'elle n'était pas déprimée. C'est important. Elle n'était pas déprimée du tout. Elle était sereine, d'où le titre « La mort sereine ». Elle était parfaitement sereine.
Donc, c'était votre belle-mère.
C'était ma belle-mère et elle avait fait sa vie. Elle a dit, ben voilà, j'ai fait ma vie, j'ai une belle vie, je sens que mon corps me lâche et je pense que c'est bien que, voilà, que je ne m'accroche pas. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, elle le répète. Hein. Et donc, bien sûr, mon mari a mis en place tout ce qui un médecin pour vérifier qu'elle ne souffrait pas, un couple d'infirmiers qui viennent tous les jours pour
parce qu'à un moment donné constater
et puis surtout que pour l'aider à être à rester aussi propre dans son lit, l'erreur qu'il a faite, c'est de lui dire mais il faut absolument que tu boives. Et c'est une erreur, il s'en est aperçu après en parlant avec des médecins, puisque les médecins lui ont dit mais vous savez arrêter de boire ne fait pas souffrir, contrairement à ce qu'on dit. Et quand j'ai vécu cette histoire, je me suis dit, mais je n'entends que des choses fausses autour de cette façon de mourir. Ce qui fait que, ayant beaucoup écrit sur la mort, entendant les personnes âgées que je rencontre me dire, mais madame, c'est comme ça qu'on veut mourir. On ne veut pas mourir forcément, on ne meurt pas forcément d'une maladie. Vous avez des personnes très âgées qui meurent tout simplement de vieillesse, d'épuisement. À un moment donné, elles ont le sentiment que leur corps lâche. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive un petit livre pour qu'on arrête de dire des choses fausses. Et surtout, j'ai interviewé deux médecins qui valident ce que je dis.
Donc un gériatre.
Hein. Et j'ai découvert deux gériatres.
Deux gériatres, le docteur Gomas et le docteur Pradine, hein, c'est ça.
Voilà, j'ai découvert ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que chez nous tous qui sommes ici, nous avons dans le cerveau quelque chose qui se déclenche, qui déclenche la faim et la soif. Avant un repas, nous avons faim, nous avons soif parce que quelque chose se déclenche dans notre cerveau. Chez des personnes très âgées, encore une fois, le cerveau, que sans doute le corps est bien fait, quand le corps arrive au bout de sa route, hein, ce qui n'est pas fait pour vivre 150 ans, notre corps, à un moment donné, il arrive au bout de sa route. Dans le cerveau, ce qui déclenche la faim et la soif s'arrête. Ce qui fait que quand une personne âgée dit ben, « j'ai plus faim, j'ai plus soif », ce mécanisme s'est mis en place. Et c'est le signe même que le corps est prêt à mourir. Alors, entre le corps qui est prêt à mourir et puis la personne, hein, il y a peut-être un décalage, et c'est pour ça aussi que je parle de dignité du consentement à mourir, parce que ce que j'ai observé chez ma belle-mère et puis ensuite chez mon mari, puisqu'il est mort comme ça cet été, il avait 20 ans de plus que moi. Il est mort très âgé, sans être malade.
À 96 ans.
96 ans, sans être... Il n'était pas malade, il était très âgé. Son corps était arrivé au bout de son chemin. Et lui aussi, il a... Alors, il disait pas mourir à l'indienne.
Il disait à l'ancienne.
Il disait mourir à l'ancienne, parce qu'au fond, c'est vrai que nous en parlions souvent et nous disions autrefois, finalement, comment faisaient les vieux. C'était la médecine n'avait pas, je dirais, fait tous les progrès qu'elle a fait aujourd'hui, donc on ne maintenait pas indéfiniment, je dirais, quelqu'un en vie, et à un moment donné, le corps lâchait aussi. Donc ce mécanisme dans le cerveau se produisait. Et donc, ça, vous voyez, je me suis dit, il faut le dire aux gens, parce qu'on ne le sait pas.
Votre belle-mère a employé elle-même l'expression « mourir à l'indienne ». Oui. Elle connaissait le terme.
Oui, alors elle s'était... Elle faisait beaucoup de recherches spirituelles dans toutes les spiritualités. Et elle était tombée là-dessus, sur cette expérience. Et elle s'était dit, mais au fond, il y a quelque chose d'assez sage là-dedans. Quand on sent qu'on n'a plus faim et soif, c'est d'écouter son corps et de se dire, ben voilà, maintenant je n'ai plus qu'à me préparer spirituellement.
Là, quand vous parlez de mort à l'indienne, d'ailleurs, les premiers Indiens dont vous parlez dans le livre, ce ne sont pas les Indiens d'Inde, les Jaïns dont vous venez de parler, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord.
Oui, les Inuits.
Et notamment les Inuits, donc, qui vivent dans des régions très septentrionales, donc où la vie est très dure, oui, et où les personnes âgées, donc, à un moment donné, mettent à sentir qu'elles peuvent devenir un poids pour, oui, le groupe, pour la survie, oui, du groupe, et donc décident de se mettre à l'écart, de rester en arrière, et de se laisser glisser vers la mort.
Voilà.
C'est bien.
Alors,
ça, hein.
Oui, c'est vrai que il y a absolument, et il y a aussi au Japon, il y a la fameuse balade de Narayama, ce film que certainement beaucoup ont vu et qui raconte effectivement aussi un pays dans lequel les conditions économiques sont telles que les vieux ne peuvent pas vivre si on veut que les jeunes puissent vivre et que à Narayama, il y a effectivement un âge au-delà duquel des personnes sont invitées à monter dans la montagne et puis à se laisser mourir.
Alors évidemment, donc dans nos contrées développées, il n'y a pas cette contrainte économique, n'existe pas. On en revient plutôt à la notion d'une décision personnelle, d'un choix. Alors, ce qui est très important, évidemment, c'est de mettre l'accent dans les cas que vous montrez, mettre l'accent sur le consentement, le choix, la décision de la personne, oui, à terminer sa vie de cette façon-là, en disant je veux m'éteindre de façon naturelle, comme une bougie qui s'éteint,
oui,
et le faire avec des moyens naturels, qui est simple, donc qui est cette fameuse façon d'arrêter de s'alimenter et de s'hydrater.
Oui.
Question, est-ce que c'est autorisé, tout simplement?
Oui. Alors,
et quelle peut être la réaction et des proches et des soignants face à une décision comme celle-là?
Alors, c'est tout à fait autorisé et légal, puisque dans la loi Leonetti, qui est la loi qui est actuellement en vigueur, dit que on ne doit pas forcer quelqu'un pour un traitement qu'il refuse. Alors là, c'est important de dire que la nourriture, ça peut être un soin ou un traitement. C'est un soin si la personne ne peut plus se nourrir elle-même avec une cuillère qu'elle ne peut plus prendre pour se nourrir. Elle ouvre la bouche quand on lui tend une nourriture, elle ouvre et elle mange. C'est un soin. On sait très bien ce que c'est que ce soin de nourrir quelqu'un qui ne peut plus se nourrir.
Comme on le fait à des tout petits enfants.
C'est un soin. Mais dès lors que la personne, je dirais, ferme la bouche, serre les lèvres, ne veut pas ouvrir la bouche, et qu'on force, ou bien qu'on lui met une perfusion pour l'alimenter artificiellement, on est dans le traitement. Or, la loi Leonetti dit clairement que l'on ne peut pas, on doit respecter le refus de traitement d'une personne.
Donc une personne qui refuse de s'alimenter et le manifeste aussi clairement ne doit pas être forcée. Hein.
Non, c'est une maltraitance.
C'est une maltraitance.
Et ça, je le dis clairement.
Donc, pourtant, cette maltraitance, elle existe, hein, on le sait.
Oui, pas partout, heureusement, mais elle existe. Et c'est une... Alors, évidemment, ce qui est important, là, quand même, il faut distinguer cette façon de mourir dont nous parlons du syndrome de glissement. Le syndrome de glissement, c'est un terme que l'on emploie pour désigner des personnes qui refusent de s'alimenter et de boire par protestation, par chagrin, par dépression. C'est ce qu'on a vu, par exemple, au moment du confinement. Et c'est ce que j'ai dénoncé dans mon livre « L'adieu interdit ». J'ai dénoncé cette maltraitance qui a été imposée à des personnes âgées qui n'ont pas reçu la visite des proches qui leur permettaient de vivre, de continuer à vivre, qui, lorsqu'elles ont été assignées à leur chambre avec interdiction d'en sortir, de recevoir des visites, ont cessé de s'alimenter.
Donc c'était par mesure de rétorsion contre une condition qui leur était infligée. Oui. Et donc on ne peut pas dire évidemment que c'est la même chose. C'était...
Pas du tout. Ça
elles, avaient presque, elles avaient presque le même réflexe que les grévistes de la faim, d'une certaine façon, qu'on peut voir en politique.
On va dire aussi la différence avec la grève de la faim. Mais là, dans ce cas-là, la personne qui, par protestation, par chagrin, arrête de s'alimenter, on est dans ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Il y a une dépression derrière. Et là, ça se soigne, cette
c'est
dépression.
Pas un choix conscient.
Non, c'est ce dont je parle avec la mort à l'indienne ou la mort
sur
cette façon-là de mourir, on est dans autre chose. Il n'y a pas cette connotation dépressive. Et c'est même ce qui nous permet de faire la différence, c'est la sérénité des personnes qui vous disent « Moi, je ne veux plus qu'on me force à m'alimenter et à boire. Voilà, maintenant, je me prépare à la mort. » Donc, il y a cette sérénité. La différence avec ce que vous évoquez, la grève de la faim. Bien sûr, ici, nous tous, si demain nous cessions de nous d'alimenter et de boire, si nous faisions la grève de la faim, nous souffririons. Bien sûr, puisque dans notre cerveau, ça continuerait.
Ce réflexe continue d'exister. Donc.
Et bien sûr qu'on souffrirait. Et là, on est dans autre chose, vous voyez. On est vraiment en face de personnes dont le corps est arrivé au bout. On le sent, le corps est arrivé au bout de ses forces. Ce sont souvent d'ailleurs des personnes qui se sont, sont très très âgées, qui souvent ne se lèvent plus, n'ont plus de muscles. Non plus l'appétit de vivre, c'est vrai. Ce sont des personnes qui, ce message qui est envoyé par le corps, elles le captent très bien et elles se disent au fond, maintenant il faut que mon esprit vienne en accord avec mon corps. C'est-à-dire que je me prépare à la mort, que j'aille les yeux ouverts vers cette mort. Et c'est ce que j'ai observé dans les deux cas.
Alors effectivement, vous avez parlé de votre belle-mère d'abord, oui. Et ensuite vous parlez de deux autres personnes qui vous sont proches. Il y a Max, qui est une femme en fait.
Non, Max, c'est ma belle-mère.
Ah non, Max, pardon, excusez-moi, je confonds. Max, votre belle-mère. Donc il y a Christopher, donc, oui. Qui est votre ex-mari.
Alors,
c'est un cas intéressant. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la façon qu'elle a été, son évolution à lui, sa réflexion, puisque lui était un homme très accroché à la vie, justement, et qui, à un certain moment, a décidé que...
Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné... à la suite d'une septicémie et d'une perte d'appétit aussi, perte de goût pour la nourriture, est devenu grabataire pendant un an, mais en gardant toute sa tête et en continuant d'ailleurs avec sa tête à vivre plein de choses. Mais son corps, effectivement, l'avait lâché. Plus de muscles, parce que quand on cesse de bouger, quand on cesse de s'alimenter pendant un mois, quand
on est très âgé, très rapide.
Il y a une fonte musculaire. Donc il a vécu tout cela qu'il ne souhaitait pas, en fait. Il aurait aimé certainement vivre au moins jusqu'à 100 ans. Mais voilà, son corps l'a lâché. Et il disait, mon corps me lâche, maintenant il faut que je lâche prise, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse le chemin qui est que j'accepte cette situation et que voilà j'aille je consente.
Alors dans son cas évidemment on est très loin de ce que vous appelez le syndrome de glissement hein. On
n'est très loin.
On n'est pas du tout là.
Non il n'y a jamais eu de chagrin, de protestation. Il n'y a jamais eu de souffrance ni physique ni psychologique. C'était un chemin. Que je qualifie de spirituel au sens large, c'est-à-dire de cette spiritualité que nous avons tous, que nous sommes des êtres mortels, nous savons que notre corps va nous porter pendant un certain temps, à un moment donné, il nous lâchera, et que nous aurons à vivre ce qu'on appelle la mort, qui reste un mystère, même si beaucoup de personnes ont des croyances autour de ce mystère, néanmoins, tout le monde sait qu'il va vivre cela. Et c'est ce que j'appelle un chemin spirituel, qui est de se dire, à un moment donné, oui, voilà, j'y vais les yeux ouverts. Hein. C'est un, ce qui est une expérience que, quand on l'accompagne, qui est assez, qui est un cadeau. C'est pour ça que je dis que d'une certaine façon, quelqu'un qui meurt comme ça, il transmet quelque chose aussi sur cette capacité humaine que nous avons à accepter la mort.
Vous citez donc, vous développez en tout cas deux cas, le cas de votre belle-mère, le cas de Christopher, et vous dites de façon assez honnêtement que ce sont des morts qui sont relativement rares, même si elles sont pas, c'est pas négligeable du tout, mais c'est un petit pourcentage des décès que nous constatons.
Alors, ce sont les gériatres que j'ai interviewés qui me le disent, parce que eux, ils m'ont dit ce que vous avez vécu, Marie, ce que vous avez accompagné, nous voyons ça dans notre patientèle, dans la gériatrie, mais on dit que c'est à peu près 10%. Donc c'est absolument pas, bien sûr, la majorité.
Hein. C'est pas négligeable pour autant, mais c'est pas...
Non, parce que je me suis dit, ce n'est pas normal que ces 10%-là soient maltraités dans la mesure où on va les forcer. Hein. On va les forcer à s'alimenter, à boire, on va les forcer au fond, alors qu'ils sont prêts à consentir. Hein. C'est un petit pourcentage, c'est vrai.
Mais lorsque est-ce que, par exemple, dans un établissement donc pour personnes dépendantes et donc où les personnes donc évidemment dont le pronostic vital sinon est engagé ou en tout cas le sera bientôt, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pourraient être conduits sur cette voie-là et que l'on conduit de façon un peu forcée vers des soins intensifs, des médications forcées pour prolonger une vie qui ne demande qu'à s'éteindre?
Oui, parce qu'en fait, il y a malgré tout une médicalisation de la mort. Et que des médecins, je parlais avec beaucoup de médecins, alors peut-être pas les gériatres, parce que les gériatres ont une expérience, justement, mais d'autres médecins ne savent pas tout ce que j'écris là. Et je peux vous dire que j'ai fait plusieurs rencontres avec des médecins qui étaient dans la salle et qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que les gériatres disent là, et qu'ils ont plutôt tendance à vouloir absolument, nourrir quelqu'un, essayer de lui redonner l'envie de vivre, alors que on voit bien ces personnes. Encore une fois, je parle pas du syndrome de glissement. Si quelqu'un est dans le chagrin, dans le ça, là on peut essayer de faire quelque chose au niveau d'un traitement antidépresseur. Mais là, nous sommes en face de personnes qui sont sereines. Et là, je crois que cette médicalisation de la mort aujourd'hui fait que dans trop d'endroits, on va forcer les personnes, on va leur mettre une perfusion. Alors, une perfusion, quand vous êtes prêt à mourir et que vous avez une perfusion qui va vous prolonger peut-être un mois, deux mois, trois mois, alors qu'en fait, vous êtes prêt, et ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et alors, l'acharnement thérapeutique.
C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique.
Qui est interdit par la loi.
Face à cette volonté de mourir à l'ancienne ou à l'indienne, et qui sont empêchés peut-être, il y a les réticences des soignants que vous venez de manifester, mais il y a aussi les réticences des proches.
Mais oui.
Parce que les proches eux-mêmes sont partagés. Lorsque eux, ils voudraient évidemment prolonger la vie de leurs proches, ils voudraient peut-être l'encourager à se battre, à manger, à boire. Ils comprennent pas forcément ce qui se passe. Elle est très importante, cette réticence.
Oui. Alors, voyez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est beaucoup pour les proches qui sont confrontés à ces situations. Beaucoup de proches qui ont lu le livre et qui avaient un peu poussé beaucoup quelqu'un qui était dans cette situation à continuer à s'alimenter et à plaider pour une perfusion, m'écrivent en me disant qu'ils ont appris quelque chose. Et lorsque ils ont accepté un peu à contre-cœur que la personne, justement, se laisse mourir, eh bien, ils me disent que mon livre les déculpabilise, parce qu'ils se rendent compte, au fond, que c'était la meilleure chose à faire, c'était d'accepter cette situation. Moi, je vais plus loin, je pense même que quand on a compris, c'est pour ça que j'écris encore le livre, c'est pour quand on a compris que ce choix-là serein d'une personne, si on l'accompagne, si on l'accepte, c'est un acte d'amour. Vraiment. C'est à ce moment-là, ça transforme les choses, parce que ces derniers moments que l'on va vivre avec la personne, ce sont des moments où on va parler, où on va... Parce que ces personnes sont la plupart du temps conscientes. Hein. C'est on va parler, on va échanger, on va dire au revoir. Voilà. Donc,
combien de temps est-ce que ça peut durer?
Alors, c'est une question intéressante. Ça dure autant de temps que l'on hydrate. Si la personne cesse complètement de s'alimenter, de s'hydrater, ça dure quelques jours. Si elle s'hydrate un peu, plus elle s'hydrate et plus ça dure. Et vous avez, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a, ce que j'ai vu d'ailleurs avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est que quelquefois, quelqu'un a tout d'un coup un peu envie de boire quelque chose, avoir envie de le goût d'un peu de chocolat sur les lèvres. Donc, on va s'hydrater un petit peu. C'est vrai que ça prolonge. Plus on s'hydrate, plus ça prolonge. Parce que, tout le monde le sait, la grève de la faim, ça ne fait pas mourir, hein, si on s'hydrate. Vous avez des personnes qui peuvent très, très bien ne pas s'alimenter longtemps. Du moment qu'elles s'hydratent, elles vivent.
Voilà. Mais donc, ce que vous dites, c'est que la faim dure une dizaine de jours ou un mois ou deux. Ça donne en tout cas le temps de se dire au revoir.
De se dire au revoir, voilà. Et ça, je pense qu'il faut respecter le rythme de la personne. Si la personne veut boire un petit peu tout d'un coup, elle a cessé de s'alimenter, de boire, et puis tout d'un coup, un jour, elle a envie de boire, ben, on lui donne à boire, bien sûr. Hein, ça va prolonger un peu. Hein. Mais c'est vrai, c'est un temps qui permet les au revoir, qui permet l'accompagnement. C'est pas du tout un temps inutile. Mmh.
Hein, Alors vous vous êtes tourné vers la littérature scientifique pour connaître, enfin savoir un petit peu où on en est sur ce sujet. Vous n'avez pas trouvé d'études en France, vous avez trouvé des études dans les pays anglo-saxons.
Oui.
Vous les avez répertoriées. Oui. C'est un syndrome il y a un acronyme, je crois que c'est ANVH ou ANVS, je ne sais plus. En tout cas, c'est une donc cette mort à l'ancienne, cette mort à l'indienne, elle est répertoriée, étudiée.
Oui.
Et alors que disent ces études anglo-saxonnes que vous avez compilées?
Bien, elles disent effectivement que l'on ne souffre pas. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de souffrance liée au fait d'arrêter de s'alimenter et de boire, puisque ça correspond à quelque chose qui se passe dans le cerveau, encore une fois. Bien sûr, nous, ici, nous déciderions demain d'arrêter de... ferions la grève de la faim, nous souffririons. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Oui, alors je suis reconnaissante aux deux médecins qui m'ont donné leur témoignage, le docteur Pradine et le docteur Gomas, qui ont cette expérience et qui ont tout à fait, je dirais, compris ce que j'avais moi-même vécu en tant qu'accompagnante de personnes qui avaient fait ce choix. Donc c'est pour ça que je me suis dit... disons ce que vous voyez, informons les personnes sur le fait que si dans leur entourage il y a quelqu'un qui est dans ce cas de figure, hein, donc pas quelqu'un de déprimé, mais quelqu'un qui sereinement dit ben voilà, je suis arrivé au bout de mon chemin, là, je n'ai plus faim, j'ai plus soif, je demande qu'on respecte cela.
Alors un des grands, il faut faire évidemment très attention à la différence des cas, et donc une des discussions à propos de cette décision de s'arrêter de s'hydrater, de s'alimenter, là, il faut savoir si c'est évidemment un choix serein, conscient, ou si c'est une forme de suicide.
Hein. Oui.
Voilà. Alors on est évidemment à la frontière là,
oui.
À la frontière du suicide. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Moi, je dis que ce n'est pas un suicide, parce qu'un suicide, il y a toujours une violence qui est faite à soi-même et aux autres. D'ailleurs, moi, j'ai vécu des suicides dans ma vie, chez mes proches. Je sais ce que c'est que la violence d'un suicide. Là, il n'y a rien de cette violence. C'est un consentement à mourir. C'est pour ça que je fais la différence entre le suicide, ou même, alors, je veux dire, si on est C'est là où, je veux dire, ce qui se passe actuellement avec la loi fin de vie qui autoriserait finalement de permettre de donner la mort à quelqu'un qui la réclame, qui est donc dans un état d'esprit suicidaire. Eh bien, c'est là, on est dans un cas de figure totalement différent, hein, parce que ces personnes sont des personnes qui, en cessant de s'alimenter et de boire, et en étant conscientes, sont dans, je dirais, vivent quelque chose qui est doux. Moi, je l'ai, qui est doux, qui est serein, qui permet justement aussi de se dire au revoir. On est dans un tout autre cas de figure.
Alors évidemment, ce que vous soulignez bien, c'est que ce type de mort s'applique à des gens bien portants, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, bien portants, c'est-à-dire qu'ils sont en tout cas qui ne sont pas atteints à un moment donné de maladies graves, invalidantes, des maladies de Charcot, des maladies neurodégénératives, des cancers, voilà. Donc c'est plutôt des gens qui sont atteints par l'usure. Hein.
Là, je parle de la grande vieillesse, d'une grande vieillesse qui n'est pas nécessairement une vieillesse pathologique. Il n'y a pas de pathologie. Il y a juste un épuisement du corps, des forces. Donc c'est pour ça que nous parlons de 10%.
10%. Mais est-ce que des gens malades, alors pour le coup âgés mais également malades, atteints de peuvent rêver de ce type de mort, ou est-ce que c'est impossible en fait? Lorsque vous êtes atteint d'une maladie grave, alors, est-ce que vous pouvez envisager de...
Je pense que le rôle des médecins, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de souffrance. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu chez les deux personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il n'y avait aucune souffrance. Mais il n'y a aucune souffrance parce que justement, dans le cerveau, hein, ce qui déclenche la faim et la soif, ça s'arrête. Hein, donc... Là, ce que j'ai observé, c'est pas de souffrance. Maintenant, je dirais ce que, dans d'autres cas, je crois que la première chose à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de souffrance, justement. Pas de douleur au fait même d'arrêter de s'alimenter et de boire.
Vous dites au début du livre que ces types de morts sont loin d'être négligeables, on vient de le dire, et qu'en même temps on en parle peu, que les pouvoirs publics en parlent peu, que dans les discussions sur la fin de vie on en parle, pour ainsi dire, pas. Et donc, évidemment, cet ouvrage, vous souhaitez évidemment ouvrir le débat et vous parlez même de lever un tabou. Il y a vraiment un tabou autour de cette question, ou c'est simplement un oubli?
Non, je pense qu'il y a un tabou, d'abord parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui est très fortement investi dans notre monde, et que effectivement respecter la décision de quelqu'un de ne plus s'alimenter et puis aussi de ne plus boire, est quelque chose qui est incompréhensible. Hein, on va forcer, on va un petit peu aller... vous savez, la différence entre l'alimentation comme soin et le traitement, c'est que si j'approche une cuillère et que la personne ouvre la bouche, c'est un soin. La nourriture est un soin. Si j'approche une cuillère et que la personne ferme les lèvres, là, ça devient un traitement.
Un traitement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est oui. La différence. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses dont on ne parle pas. C'est une forme de tabou, c'est vrai, autour de cela. Hein. Et c'est...
Qu'est-ce que vous souhaiteriez donc redémarre, donc on est loin d'en avoir fini évidemment avec ces questions et avec la définition du cadre légal réglementaire qui ordonne, qui gère la fin de vie. Vous êtes tenté de dire, vous avez beaucoup travaillé à travers des rapports au gouvernement sur les lois qui ont été votées en 2000, notamment la loi Leonetti en 2005 et puis ensuite la loi Claeys-Leonetti. Est-ce que ces lois ont finalement posé des cadres cadre suffisant. Et ce qui manquerait à ce moment-là, c'est surtout l'application de ces, textes. Je pense en particulier aux soins palliatifs qui ont été définis depuis longtemps, mais qui, dont le grand défaut est de n'être pas présent, disponible sur l'ensemble du territoire, donc pour toutes les personnes qui en auraient besoin.
Oui. Alors, moi, j'ai travaillé 10 ans en soins palliatifs, hein, comme psychologue, et je continue à le dire, que je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir épouvantablement dans ces 3 dernières semaines en moyenne de ces personnes. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une
personne en soins palliatifs.
J'étais dans une équipe de soins palliatifs, la première créée en France, avec des médecins qui étaient compétents et des médecins qui, je dirais, n'abandonnaient jamais quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire, si la personne souffrait, on lui donnait tous les antalgiques, tout ce qui était possible pour le soulager. Hein. Et je n'ai jamais vu de personne souffrir pendant 10 ans avec des médecins qui savaient aussi, quand face à des souffrances réfractaires, ils savaient aussi endormir. Hein. Mais endormir, ce n'est pas tuer, ce n'est pas faire une injection létale, c'est permettre à la personne de ne plus souffrir dans un... Et tout cela est légal. Hein, donc voilà, ça, c'est mon expérience. Hein, effectivement, je regrette beaucoup que cette culture palliative soit, si, je dirais, de façon si hétérogène, développée en France, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est développé. À Bordeaux, je crois que c'est
très développé. Nous sommes à Bordeaux,
dans une région très développée. Vous avez des tas de régions dans lesquelles il n'y a rien. Vous savez qu'il y a 20 départements dans lesquels il n'y a rien. Et donc,
départements ruraux pour l'essentiel.
Oui, le centre de la France, beaucoup. Et je dirais, dans ces régions, évidemment, on est très démunis face à des personnes qui arrivent en fin de vie et qui souffrent. Et donc, je trouve que cette loi qui est sur le tapis, là, qui va être discutée dans quelques jours
au Sénat,
évidemment, pour moi, c'est une loi par défaut. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des régions dans lesquelles il n'y aura pas d'autre solution
que de proposer aux personnes, une potion létale. Ou...
Oui, voilà. Ouais. Donc, l'euthanasie,
avec tous les problèmes que ça pose, hein.
Voilà, c'est alors que dans les textes, si on appliquait la loi Claeys-Leonetti, si on l'appliquait vraiment, si lorsqu'on fait une sédation, on ne faisait pas là aussi, qu'on faisait une sédation et on ne continuait pas à alimenter la personne, ce qui pour moi est une aberration. Faire une sédation pour endormir quelqu'un et continuer à l'alimenter par une perfusion, pour moi, je ne comprends pas. Mmh. Là, vous voyez,
c'est contradictoire.
Complètement contradictoire. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise application de cette loi dans certains endroits qui fait que cette loi a mauvaise réputation. Alors qu'en fait, si on l'appliquait vraiment dans son esprit, je dirais tout est là, l'obligation de soulager, de respecter le refus de traitement, et le refus d'alimentation fait partie du refus de traitement lorsque la personne n'a plus...
Oui, parce que ça, c'est un point très important des lois Leonetti et Claeys-Leonetti, oui, c'est les droits du patient. Hein.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, cette loi Claeys-Leonetti, elle n'est pas bien appliquée partout. Et c'est ça, à mon avis, qui est le problème.
Et donc, une bonne loi qui n'est pas bien appliquée, ça devient une mauvaise loi.
Alors, il y a aussi ce désert, je dirais, de soins palliatifs qui ne sont pas partout, où ces équipes n'existent pas partout, dans tous ces départements où il n'y a rien. Et là, c'est vrai que c'est un...
Alors, vous soulignez... Alors, évidemment, avant que notre conversation, vous disiez tout à l'heure... les soins palliatifs, évidemment, c'est cher, et donc c'est la raison pour laquelle on ne les développe pas assez, et il est fort possible que on n'obtienne jamais, jamais les fonds nécessaires pour couvrir le territoire d'unités de soins palliatifs suffisantes. Donc, par défaut, vous parlez de loi par défaut, donc par défaut, on va proposer d'autres solutions. Est-ce que le livre que vous venez de faire, lui, est une est un pas de côté qui permettrait de proposer une alternative.
Ben, c'est un pas de côté, en tout cas, pour les personnes très âgées. Voilà. Bon, je pense que pas que ça s'applique, je dirais, à des personnes plus jeunes. Je pense que c'est pour des personnes très âgées. Déjà, je dirais, si on respectait ces personnes qui, à un moment donné, font signe qu'elles n'ont plus faim, qu'elles n'ont plus soif, parce que c'est une sensation, la faim et la soif, et vous avez compris que ça se déclenche par le cerveau. Hein. Donc, déjà, si on respectait cela, eh bien, vous auriez, bon, alors 10% peut-être de la population qui pourrait terminer sa vie de manière digne. Moi, d'ailleurs, le sous-titre, c'est « Dignité d'une fin consentie ». Parce que pour cette différence, hein, le consentement à mourir, c'est pas un suicide.
Quand vous entendez les partisans de la, les partisans de donc du droit, enfin de l'aide à mourir,
oui,
pour parler d'un par euphémisme, parler de mourir dans la dignité, ça vous inspire quoi, l'utilisation qu'ils font du mot dignité?
Bah d'abord, oui, je pense que c'est une erreur d'employer le mot dignité, parce que je dirais toute fin, d'abord, je dirais toute fin qui est digne, de toute façon. Je dirais que le mourir dans la dignité, qui serait que ça serait mourir avec une injection ou avec une perfusion qui fait mourir, c'est une perversion par rapport au fait, justement, aux soins palliatifs, qui sont des soins dans lesquels on va être à l'écoute de la personne, on va soulager ses douleurs, on va lui permettre de rencontrer les personnes qu'elle a envie de rencontrer, de dire au revoir. Parce que moi, je fais partie de ces psychologues qui savent que quelquefois, une seule parole délivre. Combien de fois j'ai encouragé des proches à dire quelque chose qu'ils avaient sur le cœur, à, je dirais, vraiment dire au revoir à la personne, et la personne mourait dans la foulée, la nuit suivante ou la journée suivante. Donc la parole délivre. Bon, ça, c'est mon expérience de psychologue ayant travaillé en soins palliatifs. Mais évidemment, il n'y en a pas partout. Hein, puisque, justement, je vous dis, il y a 20 départements dans lesquels il n'y a aucun soin palliatif.
Sur cette question de l'alimentation dont décide tout d'un coup, c'est vrai qu'il est très parlant de montrer l'exemple de cette femme, votre belle-mère, qui revient avec son sac de courses et qui découvre au fond qu'elle n'a plus envie. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Vous avez dit la nourriture, c'est vraiment transporte tout ça, tout un imaginaire. Oui. Et donc vraiment arrêter de s'alimenter ou voir quelqu'un qui arrête de s'alimenter. Alors c'est un peu une catastrophe.
Oui,
quoi.
C'est là où c'est le plus dur pour les familles d'accepter ça.
Oui.
Parce que les familles investissent énormément la nourriture, bien sûr. Hein, la nourriture, c'est la vie. Hein, c'est donner à manger, c'est aussi donner de l'amour. Voyez. Donc c'est difficile pour les familles d'accepter ça. C'est un chemin. Mais quand on... C'est pour ça que j'espère que ce livre aidera les familles, parce que quand la personne est vraiment déterminée et qu'elle est sereine, encore une fois, hein, et qu'on comprend que respecter sa décision, c'est un acte d'amour, en fait, je pense que là, on ne culpabilise plus.
Mais tout le monde a besoin d'apprendre, en tout cas. Donc les politiques, les proches, les soignants, les responsables d'unité. Enfin, finalement, votre livre, au-delà de la question de la morale ancienne ou de la morale indienne, c'est comme une incitation à s'informer aussi, à s'informer, puis
oui,
et puis à faire œuvre de pédagogie. Voilà, être curieux de ce qui existe et d'essayer de trouver des alternatives,
oui,
à ce qui est aujourd'hui un peu une charge mentale qui est ce grand continent de la mort, surmédicalisé, avec ces questions angoissantes d'administrer des potions, de recueillir des avis de patients qui n'ont peut-être plus les moyens d'avoir des avis éclairés. En fait, tout cela est très angoissant. Donc
oui, mais vous voyez, vous parlez d'avis éclairés, mais on m'interroge beaucoup, par exemple, sur les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et qui, effectivement, est-ce qu'ils peuvent exprimer, mais je veux dire, toute personne peut exprimer son refus de s'alimenter, en serrant les lèvres et en refusant l'alimentation.
Il n'y a pas besoin de parler.
Une personne atteinte d'Alzheimer qui fait cela, c'est un signe. Il faut l'écouter, se dire, son corps dit quelque chose. Et là, la forcer ou lui mettre une perfusion, pour moi, c'est une maltraitance.
Vous parlez quand même dans votre livre, vous en reparlez, parce que vous en avez déjà parlé, mais de l'ambivalence, en fait, évidemment, l'ambivalence des personnes face à la mort. Enfin, on est tous pareils, hein. On a envie et on n'a pas envie. Hein. C'est la fable de La Fontaine que tout le monde connaît sur le vieillard et la mort. Hein.
Oui.
Et donc la mort, oui, on l'appelle, et puis quand elle est là, oulala. Donc l'ambivalence, elle est en nous. Donc c'est ce qui rend sans doute la chose très très compliquée. Quand on parle de consentement.
Bien sûr, et c'est pour ça que dans ce que je décris aussi, quelqu'un qui, par exemple, dit « je n'ai plus faim, je n'ai plus soif, je ne vais plus... Bon. » Mais la personne peut, quelques jours après, avoir tout d'un coup envie d'avoir... Oui,
voilà, donc y a des
ambivalence, elle joue tout d'un coup, peut-être encore... Voilà.
Donc la clé, c'est quoi? La clé, c'est toujours l'écoute.
C'est-à-dire... c'est le respect de ce qu'on observe,
voilà.
Bien sûr. Et vérifier, parce que je pense que c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est ce que je dirais, c'est vérifier que la personne n'est pas en souffrance physique, hein, et que cette envie de manger un jour ou d'avoir envie d'avoir un petit peu de confiture sur un bout de pain, alors qu'on a cessé de s'alimenter depuis 10 jours. Mais qu'on boit encore un petit peu, ben oui, ça se respecte. Ça va être peut-être un peu plus long, mais c'est le rythme de la personne.
J'ai mentionné tout à l'heure que vous aviez rédigé des rapports, donc il y a une vingtaine d'années, sur ces questions. Vous avez plus récemment rédigé des tribunes. D'ailleurs, dans votre livre, vous publiez de longs extraits d'une tribune que vous aviez initiée avec d'autres personnes, donc pour essayer d'éclairer nos gouvernants. Vous avez l'impression aujourd'hui, vous avez une surface, comme on dit, une surface médiatique quand même. Vos livres sont très très lus, vous êtes très diffusés. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté véritablement écouté dans ce débat sur la fin de vie?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il y a des lobbies qui sont très très puissants. Très puissant et qui couvre, je dirais, mais bon, je continue à chaque fois que je peux à dire ce que voilà, et aussi à parler de mon expérience aussi, hein, bien sûr. Mais oui, je suis, vous savez, quand vous avez été la première psychologue en soins palliatifs, que vous avez constaté pendant 10 ans que les personnes ne souffraient pas parce que les médecins avec qui je travaillais savaient utiliser les bonnes molécules au bon dosage, qu'il y avait, parce qu'il y a la souffrance physique, mais qu'il y avait, tout était mis en place pour que la souffrance psychologique puisse être soulagée, à la fois dans l'aide qu'on apportait aux familles, dans le soutien aussi des personnes, dans l'écoute de ce qu'elles souhaitaient peut-être aussi vivre encore avant de mourir, parce que souvent la souffrance vient de ce que l'on n'a pas tout à fait terminé, son chemin. Vous voyez, quand on a vécu ça et qu'on voit ce qui se passe actuellement, moi j'ai écrit 2 rapports quand même sur la France palliative et le fin de vie, le devoir d'accompagnement. Quand je vois où nous en sommes, je suis quand même assez triste, parce que je pense que ça aurait pu se développer.
Mais néanmoins, quand vous êtes entré dans cette première unité soins palliatifs, on était en 1987, oui. Donc c'était il y a près de 40 ans. On a quand même fait de grands progrès dans cette culture palliative, non? Vous ne diriez pas ça?
On a fait des progrès dans la connaissance des molécules. Bien sûr, on a fait des progrès, mais déjà, nous avions tous les moyens de soulager. Nous les avions, vraiment. Et on n'hésitait pas, d'ailleurs, c'était soulager d'abord. Il s'agissait de soulager. Donc vraiment, on ne lésinait pas sur les doses de morphine à donner si quelqu'un souffrait. Mais on le faisait en proportion de la souffrance. On ne faisait pas comme on fait aujourd'hui dans certains hôpitaux où on va vous donner une dose massive qui fait que vous perdez conscience, hein, alors qu'on pourrait donner une dose qui correspond à la souffrance que l'on a, de façon à pouvoir rester lucide, hein, garder sa tête jusqu'au bout. Donc c'est une vraie compétence, le traitement de la douleur. Une vraie compétence. Que, vous savez que en France, vous avez des facultés dans lesquelles les médecins reçoivent 40 heures de formation au traitement de la douleur et d'autres 2 heures. Bah, le médecin qui aura reçu 2 heures, il n'est pas aussi bien formé que celui qui a reçu 40 heures, évidemment. C'est ça la réalité de.
Et donc, dans les unités de soins palliatifs, cet aspect-là est extrêmement développé.
Bah, oui. C'est un.
Et donc, simplement, ce sont des arbitrages budgétaires qui ne sont pas faits ou pas assez.
Les arbitres. Justement, je dirais, nous avons une loi sur les soins palliatifs qui, évidemment, a été votée à l'unanimité. Avec il y a un budget. Mais moi, je fais partie des personnes qui pensent que cet argent n'ira jamais aux soins palliatifs.
Où ira-t-il ? Ailleurs ?
Vous savez, nous sommes dans un pays très endetté, hein, dans lequel il y aura d'autres priorités. Mais ça m'étonnerait bien.
Des crédits qui ont été fléchés sur les soins palliatifs seront, à votre avis, détournés ?
Moi, je n'y crois pas vraiment.
Vous n'y croyez pas vraiment ?
Non. Ouais. Et je pense surtout, à partir du moment où on aura une loi qui fera qu'en 48 heures, vous pouvez donner la mort, alors que les soins palliatifs, c'est en moyenne 3 semaines.
Donner la mort et la recevoir. Enfin,
bon, moi, je suis assez pessimiste là-dessus.
C'est un pessimisme tranquille, parce que vous n'êtes pas là à brandir.
Mais je dis les choses quand même. Je pense que la loi que nous allons avoir est une loi qui n'est pas une loi d'égalité. Dans certains départements, peut-être comme le nôtre ici, où les soins palliatifs sont développés, les gens auront le choix. Mais dans 20 départements, ils n'auront aucun choix.
Non, pas le choix. Oui.
Donc c'est une loi par défaut.
Voilà. Donc vous allez suivre attentivement quand même les débats qui reprennent. Donc là, dans quelques jours.
Oui.
Et quand peut-on imaginer avoir un dispositif voté complet?
Vous savez, je ne sais pas.
Vous ne souhaitez pas peut-être qu'on y arrive, puisque ce que vous anticipez, c'est une loi par défaut, c'est ça?
Oui. Et puis personnellement, je pense qu'elle sera difficilement applicable. Parce que d'abord, il y a beaucoup de médecins qui refuseront de faire un acte létal qui va à l'encontre de leur
déontologie.
Vous avez aussi des soignants qui refuseront. Donc je me dis, mais qui va le faire? Comment est-ce que ça va se passer? Je me pose beaucoup de questions sur l'application de cette loi. Et puis alors, vous voyez, je fais des conférences très régulièrement dans des résidences services pour personnes âgées, autonomes, de 80 à 100 ans. C'est dans ces résidences, vous avez des directeurs qui me disent que je forme 4 fois par an, je les forme à l'accompagnement de la fin de vie de ces résidents. Et ils me disent, mais madame, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura cette loi? Car si nous avons tout le temps des personnes âgées qui ont des idées suicidaires, qui nous disent « Oh, j'ai plus envie de vivre là », peut-être parce qu'ils ont une mauvaise nouvelle la veille, ou bien qu'un enfant qui devait venir les voir n'est pas venu. Bon, et ces idées suicidaires, elles font ça. Le lendemain, on a pu, ça oscille. Quand les directeurs se rendent compte que quelqu'un est dans cet état d'esprit, ce qu'il fait, c'est d'être plus attentif, d'essayer de le raccrocher à la vie, d'essayer de l'aider à être peut-être à rencontrer d'autres personnes, peut-être de rencontrer un psychologue. Enfin bon, ils vont faire ce que chacun d'entre nous fait s'il est en contact avec quelqu'un qui a des idées suicidaires. Eh bien, ils me disent, quand cette loi sera votée, eh bien, avec ce fameux délit d'entrave, si nous essayons d'aider quelqu'un qui a des idées suicidaires, est-ce qu'on n'est pas passible de prison et d'amende?
Parce que on entraverait quoi?
On entraverait le désir de se suicider.
Le désir de se suicider.
Ou de demander la mort. Donc, voyez, ils sont très, ils sont, je vois des personnes qui sont très démunies par rapport à ce projet de loi. Qui est, bon, qui n'est pas encore, qui est pas encore bon, voté.
D'ici, mais... d'ici là, vous allez peut-être donc susciter des nouveaux témoignages pour compléter ceux de Max et de Christopher qui sont dans le livre. Ça serait intéressant effectivement d'avoir d'autres exemples aussi parlants de ces personnes qui,
bah, écoutez,
qui depuis, lâchent prise. Qui lâchent
depuis
prise
que, depuis que mon livre est sorti, je reçois des courriers de personnes qui me disent merci d'avoir écrit ce livre. Parce que mon père est mort comme ça, ma mère est morte comme ça, c'est-à-dire ils ont cessé de s'alimenter à un moment donné, ils ont dit voilà, j'ai plus faim, ça, laissez-moi.
Et les proches ont suivi.
Alors ils ont au début, ils me disent on s'est senti un peu coupable de pas pousser, ils me remercient parce qu'ils ce livre les déculpabilise.
Les déculpabilise.
Leur fait sentir qu'en fait c'était un acte d'amour que d'accompagner ce souhait d'un parent. Eh bien, de glisser comme une petite bougie, de s'éteindre doucement, et de voilà.
Donc, ce qu'il faut, c'est parvenir évidemment à comprendre le souhait de la personne. C'est pas forcément facile, mais surtout si la façon dont elle s'exprime n'est pas claire. Mais
alors, je dis, c'est là où il faut faire la différence entre quelqu'un qui dit moi, j'ai plus faim, j'ai plus soif, laissez-moi tranquille, laissez-moi glisser doucement, mais qui dit ça sereinement, et puis quelqu'un dont on sent
quelqu'un qui est révolté, quelqu'un
dont
qui
on sent qu'il y a une colère, une protestation derrière ça, peut-être une tristesse, un chagrin. Et là, peut-être qu'il faut faire la différence.
Oui.
C'est la différence entre le syndrome de glissement et ce que je décris là, la mort à l'indienne ou la mort à l'ancienne. C'est c'est le fait que dans un cas on est serein et dans l'autre on est déprimé.
On est déprimé.
Donc c'est ça qu'il faut.
Donc c'est un critère assez clair, ça.
C'est un critère clair, voilà.
Oui.
S'il y a dépression, là il faut essayer de soulager la dépression, des raisons de la dépression.
Eh bien, donc Marie de Henzel, je rappelle La mort sereine, votre livre publié chez Plon, La dignité d'une fin consentie. Voilà, merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup de cette heure de discussion et merci à vous.
Merci.